VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 mai 2017, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
Plus de 31 millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays en 2016, surtout en Chine et en République démocratique du Congo, selon une ONG spécialisée.
En Libye, le chef des ACR dénonce les conditions exécrables dans les centres de rétention pour migrants.
En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa durcit ses critiques contre son patron Jacob Zuma.
En Égypte, 48 suspects dans les récentes attaques contre la communauté copte seront bientôt jugés.
En Arabie Saoudite, le président Donald Trump a appelé hier les dirigeants musulmans à l'unité pour lutter contre le terrorisme.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Plus de 31 millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays à cause de guerres, de violences ou de catastrophes naturelles en 2016, surtout en Chine et en République démocratique du Congo, a rapporté lundi une ONG spécialisée. Parmi les 6,9 millions de nouvelles personnes chassées de leur domicile par une guerre l'an dernier, 922 000 ont été recensées en RDC, davantage qu'en Syrie, 824 000 déplacés, et en Irak, 659 000. Selon l'International Displacement Monitoring Center du Norwegian Refugee Council, ces chiffres montrent la nécessité de se pencher autant sur les personnes déplacées au sein des pays que sur les réfugiés qui franchissent les frontières, a insisté le chef du RNC. Jan Egeland.
En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa a durci hier ses critiques contre le président Jacob Zuma. Il a plaidé pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Eric Manirakiza.
Cyril Ramaphosa a depuis quelques mois multiplié les sorties contre le chef de l'État. Le vice-président a amplifié les propos de Mgr Malusi Mpulwana, chef du Conseil sud-africain des églises, qui a estimé que le pays arc-en-ciel est prêt de devenir un État mafia. Dans un discours télévisé, il a estimé qu'il est absolument impératif d'agir vite et fort. Jacob Zuma est mis en cause dans une série de scandales politico-financiers. La tension est montée notamment à la suite de l'éviction fin mars du respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Son limogeage a provoqué des manifestations dans les rues de plusieurs villes pour exiger la démission de Jacob Zuma. L'opposition a déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président et doit être examinée dans les semaines qui viennent. L'ANC doit élire en décembre le successeur de M. Zuma en vue des élections générales de 2019 et M. Ramaphosa est l'un des principaux candidats pour briguer la présidence du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994.
Retour sur le sommet régional de samedi sur la crise burundaise. À Dar es Salaam, les présidents de Tanzanie, John Magufuli, et d'Ouganda, Yoweri Museveni, ont plaidé en faveur de la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi, mais un diplomate de l'UE a aussitôt rejeté cette demande. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Washington la porte-parole du mouvement des femmes et filles pour la paix au Burundi, Karine Kaneza.
Ce qui a conduit à la mise en application de ces sanctions sur base de l'accord de Cotonou, de l'article 96, reste de vigueur. Au contraire, ces raisons semblent se renforcer au jour le jour. Nous voyons une région qui se caractérise par des pratiques traditionnelles de solidarité entre États, qui font partie d'une architecture internationale politique qui a toujours eu lieu. Mais en même temps, l'ironie, d'un côté, il y a une certaine rhétorique qui se veut panafricaine, qui demande une solution africaine aux problèmes africains, mais en même temps, cette même position renforce des pratiques immorales de gouvernance qui nous maintiennent, nous les Africains, ce même continent africain dont nous voulons défendre l'indépendance, comme la risée justement de l'Occident. Nous rappelons que la crise burundaise est fondamentalement ancrée sur la démolition, la destitution de l'accord d'Arusha qui a été défendu, facilité par ces mêmes leaders africains.
Karine Kaneza à Washington.
Au Nigeria, des miliciens ont annoncé hier à l'AFP que Boko Haram a tué 6 miliciens combattants aux côtés des forces gouvernementales au cours de 2 attaques séparées, dont un attentat par 2 femmes kamikazes dans le nord-est du Nigeria. Ces deux attaques illustrent la vulnérabilité des communautés rurales de cette région du Nigeria au moment où les autorités encouragent les personnes déplacées à cause du conflit avec Boko Haram à revenir chez elles.
En Égypte, le parquet a annoncé hier avoir déféré devant la justice militaire 48 personnes soupçonnées d'être impliquées dans des attaques contre trois églises coptes depuis décembre, revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Le 9 avril, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes de l'organisation terroriste avaient pris pour cible deux églises du nord de l'Égypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts. Et en décembre, 29 personnes avaient été tuées dans une attaque similaire contre une église du Caire.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a décrié des conditions de vie épouvantables dans les centres de rétention pour migrants en Libye. L'organisation onusienne a appelé à la libération des demandeurs d'asile et réfugiés. Jean-Roger Bion.
Philippe Ograndi, patron du HC, a effectué une visite surprise de quelques heures à Tripoli et s'est rendu dans un centre de rétention. Se disant choqué, il a décrit des conditions de vie exécrables d'un point de vue sanitaire avec des personnes qui dorment les unes sur les autres. Le chef du HC a par ailleurs souligné avoir recueilli des témoignages très difficiles sur des cas d'esclavage moderne de la part de gangs et d'éléments criminels. Selon lui, d'autres solutions devraient être trouvées pour les migrants venant de pays en conflit, comme les Syriens ou les Somaliens. Après avoir relevé que l'urgence s'appliquait aussi aux 500 000 déplacés libyens, M. Grandi a exprimé sa vive inquiétude sur la hausse des tentatives de traverser en Méditerranée centrale. La Libye est en proie à un chaos persistant depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Le HCR espère notamment être en mesure de réinstaller à plein temps d'ici quelques semaines du personnel étranger dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Riyad, en Arabie Saoudite, le président américain Donald Trump a appelé hier les pays musulmans à lutter avec détermination contre l'extrémisme islamique. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger en tant que président. Le point avec Frédéric Nkundikidje.
Devant les représentants d'une cinquantaine de pays musulmans, Donald Trump s'est dit porteur d'un message d'amitié, d'espoir et d'amour du peuple américain. Dans son discours très attendu, il a appelé les dirigeants musulmans à faire face à la crise de l'extrémisme islamique. Poursuivant sur sa lancée, M. Trump a exhorté les dirigeants musulmans à refuser refuge aux terroristes, à les chasser de leur communauté et de leur lieu de culte. Il s'en est aussi violemment pris à l'Iran, accusé de soutenir le terrorisme. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé dans un tweet ces attaques formulées contre son pays. Le président Trump est attendu aujourd'hui en Israël, deuxième étape de sa tournée au Moyen-Orient, dans les territoires palestiniens, et d'un voyage qui le mènera aussi au Vatican, à Bruxelles et en Sicile pour les sommets de l'OTAN et du G7.
Beaucoup de musulmans à travers le monde ont réagi positivement au discours de M. Trump à Riyad et à son appel à l'unité pour combattre le terrorisme. On se souvient que pendant sa campagne électorale en 2016, le candidat Trump avait appelé à une interdiction totale et complète de l'accès des musulmans en territoire américain. Mais dans son discours de dimanche, il a donc offert une autre vision des relations entre les États-Unis et les musulmans dans ce qu'il a appelé cette bataille. Bataille entre le bien et le mal.
Amnesty International, dans un rapport publié aujourd'hui, a accusé la Turquie de procéder à des limogeages arbitraires, injustes et politiquement motivés. Plus de 100 000 personnes ont été limogées par des décrets-lois en vertu de l'état d'urgence instauré depuis le coup d'État manqué de l'été dernier. Face aux critiques, les autorités turques nient toute chasse aux sorcières et affirment que ces mesures d'exception sont nécessaires pour nettoyer les institutions des éléments factieux. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute écho d'Elie Dico.
L'Allemagne exige au Zimbabwe des indemnisations pour les terres saisies aux fermiers allemands dans le cadre de la réforme agraire, lancée par le gouvernement Mugabe dans les années 2000 pour corriger les inégalités dans l'accès aux terres agricoles. Cette opération avait donné lieu à la saisie en 3 ans de 90% des terres appartenant à la minorité blanche du pays. Les demandes d'indemnisation s'inscrivent dans un contexte de rapprochement. Harare tente de renouer ses relations avec l'UE après une période de sanctions imposées par Bruxelles. Au Cameroun, les réformes de la taxe foncière ont permis au fisc de mobiliser 4,3 milliards de francs CFA en 2016 au profit des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre des Finances camerounais, Alamine Ousmane Mey, s'est dit satisfait des récentes réformes autour de la taxe sur la propriété foncière. Les nouveautés implémentées sont la déclaration pré-remplie, le paiement par téléphone mobile ainsi que l'amnistie fiscale. À titre de comparaison, les taxes foncières collectées avant la réforme s'élevaient à 1,7 milliard par an. Au Burkina Faso, la délégation de l'Union européenne vient de confirmer son appui au plan national de développement économique et social à hauteur de 524 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. La contribution européenne dans l'aide extérieure reçue par le Faso représente en moyenne plus de 40% du total de l'aide extérieure. Cette aide est axée autour des secteurs de la gouvernance, de la santé, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'agriculture et de l'eau.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Du football à la une ce matin, mondial des moins de 20 ans et le dernier représentant africain entre en lice ce matin.
Oui, il s'agit du Sénégal et ce sera à partir de 11h temps universel. Les Lionceaux vont affronter l'équipe d'Arabie Saoudite. Match comptant pour la première journée des matchs du groupe F. Dans l'autre match du groupe, les États-Unis seront face à la Colombie.
Hier, la Zambie, équipe championne d'Afrique en titre, a bien réussi son entrée.
Les Chipolopolo juniors ont battu le Portugal 2-1. Les buts zambiens ont été marqués par Chilufia et Sakala. Et si la Zambie a réussi son entrée? Par contre, la Guinée et l'Afrique du Sud ont été défaits respectivement par le pays hôte, la Corée du Sud 3-0 et le Japon 2-1. Pourtant, ce sont les Sud-Africains qui ont marqué les premiers.
Un tour maintenant chez les moins de 17 ans, la CAN se poursuit au Gabon.
Et on connaît désormais les affiches des demi-finales. On aura Ghana-Niger et Mali-Guinée, deux duels d'Afrique de l'Ouest. Pour le dénouement du groupe A, les Ghanéens et Guinéens ont fait jeu égal 0-0, un résultat qui permet aux Ghanéens de terminer premier. Dans le groupe B, le Mali a atomisé l'Angola 6-1 et termine en tête. Dans l'autre match, le Niger a eu raison de la Tanzanie 1-0, suffisant pour accéder en demi-finale. Précisons que les 4 demi-finalistes sont tous qualifiés pour le mondial de la catégorie en octobre prochain en Inde.
Football toujours, les écureuils du Bénin ont livré un match amical hier face aux étalons du Burkina Faso.
Ce match entre dans le cadre des préparatifs du CHAN 2018. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Ce résultat reflète le niveau du football sur le plan national et qui est sans championnat selon le capitaine des écureuils Dean Couperet.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aussi depuis quelques années sans championnat. Les automatismes n'ont pas été corrects comme si nous étions en championnat. Et les entraîneurs verront ce qu'ils vont faire à la reprise des entraînements, corriger quelques erreurs que nous avons commises sur le terrain. Et je pense que ça va aller, ça va nous amener aussi du côté du Togo à pouvoir arracher la victoire face au Togo en éliminatoire.
Au tour préliminaire, donc, vous l'avez entendu, le Bénin va affronter le Togo. Rappelons qu'au match aller entre Béninois et Burkinabé, il y avait un but partout.
En Espagne, Élisée, le Real s'offre le titre aux dépens du Barça.
Exactement, Idrissa. Alors qu'il n'avait plus été champion depuis 2012, le Real Madrid de Zinedine Zidane a décroché hier le titre en s'imposant à Malaga 2-0 à l'occasion de la 38e journée de la Liga. Grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le club merengue termine la saison avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone, vainqueur lui aussi des bas 4-2. La Maison Blanche tentera désormais de remporter la Ligue des Champions face à la Juventus de Turin le 3 juin prochain.
Du basketball avec le dernier ticket de l'Afro-Basket obtenu à Bamako par la Centrafrique.
Les fauves qualifiés, mais qui se sont fait peur face au Tchad, qui ne s'est jamais qualifié à une phase finale de cette compétition. Score 67-64. Et puis toujours du basket avec cette fois les playoffs de la NBA. Et avec vous Idrissa, le résultat de la nuit.
Boston humilié vendredi devant son public, 130-86, et privé de son meilleur marqueur, Isaiah Thomas, a infligé, à la surprise générale, au champion en titre Cleveland, sa première défaite des playoffs 2017. 111-108 hier dimanche. Cleveland mène toujours dans cette finale de la conférence Est, 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, la mutinerie de ces derniers jours est encore dans tous les esprits. Ces événements ont rappelé à tous la fragilité de ce pays qui tente de se remettre de plus d'une décennie de crises politiques et militaires. D'Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
La mutinerie est certes finie, mais les soubresauts au sein de l'armée ivoirienne sont sans doute loin d'être terminés. Selon certains spécialistes, après la satisfaction des mutins qui ont fait parler la poudre les 12, 13, 14 et 15 mai derniers, d'autres entités au sein des forces de défense et de sécurité pourraient eux aussi se faire entendre. Pour l'analyste politique Flan Moké César du Centre de recherche politique d'Abidjan, il faut au plan militaire tirer les enseignements de ce dernier soulèvement.
Je pense que les autorités politiques et militaires de la Côte d'Ivoire ont reçu cette mutinerie comme un signal et que c'est l'occasion plus que jamais d'enclencher toute cette réforme globale qui est comprise dans la loi de programmation militaire, de sorte à donner à l'institution militaire toute son assise et sa stabilité.
La réforme des forces de défense et de sécurité apparaît donc plus que jamais nécessaire pour mettre de l'ordre dans une armée que l'on dit pléthorique et indisciplinée. En outre, cette nouvelle mutinerie a mis en évidence la fragilité du processus de normalisation dans le pays et sape par ailleurs les efforts des autorités ivoiriennes de faire de la Côte d'Ivoire une destination prisée par les investisseurs. Pour le président de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il est temps que les Ivoiriens se retrouvent pour aplanir leurs divergences. Pierre Kwame Adjoumani.
Le problème n'est pas encore circonscrit. Les démobilisés sont là. Le problème n'est pas encore résolu. Nous demandons qu'il y ait un dialogue social inclusif. Et donc c'est ce que nous avons toujours demandé au président de la République parce que nous pensons qu'il y a encore d'autres problèmes à résoudre comme le problème des codes fonctionnels, comme
Les fonctionnaires ivoiriens pourraient en effet donner de la voix. Ils attendent de l'État le paiement de quelque 249 milliards de francs CFA d'arriérés des salaires et n'excluent pas de déclencher un nouveau mouvement de grève. Théodore Nyanyazadi, secrétaire général de la plateforme des organisations professionnelles.
Aujourd'hui, les fonctionnaires ne demandent pas au gouvernement de payer ici et maintenant les 249 milliards. Les fonctionnaires demandent au gouvernement qu'il y ait un accord sur ce stock des arriérés qui va permettre de payer ce stock par tranche. C'est vrai que ce qui s'est passé au niveau militaire, ça a eu un impact psychologique sur les fonctionnaires qui pensent qu'aujourd'hui, il est tout à fait légal et légitime que le gouvernement également fasse un geste concernant leurs arriérés.
Pour tout dire, les autorités ivoiriennes ne sont pas au bout de leur peine. Déjà confrontées à une baisse des cours du cacao, les voilà qui doivent faire face à plusieurs mouvements d'humeur. Quant au président Ouattara, il a demandé au préfet un rapport détaillé sur cette mutinerie, alors que les députés pourraient mettre sur pied une commission parlementaire d'enquête. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Bénin, c'est un non-lieu qui a été rendu dans l'affaire PPEA 2. C'est le nom du programme triennal d'accès à l'eau potable financé par la coopération néerlandaise. L'affaire avait éclaté le 8 mai 2015 vers la fin du mandat de l'ex-président Yayi Boni. En effet, à la suite d'un audit diligenté par les Pays-Bas, il a été révélé un détournement de 2,6 milliards de francs CFA. Et le nom de l'ancien ministre de l'eau, Barthélémy Kassa, avait été cité dans cette affaire avec 12 autres personnes, dont des opérateurs économiques et des cadres de l'administration publique. Le non-lieu a laissé sceptique nombre de Béninois, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
2 ans, c'est le temps pris par le juge instruit de l'affaire PPEA 2 pour se prononcer. 2 années pendant lesquelles les 12 personnes déjà inculpées et l'ancien ministre de l'eau, tous éclaboussés par l'audit, ont été tenus comme seuls responsables de ce détournement, devenu aujourd'hui réorientation des fonds. Le ministre Barthélémy Kassa, principal mis en cause dans cette affaire, félicite la justice qui, dès le départ, ne s'est pas laissée intimider et qui a travaillé à la manifestation de la vérité.
Quand vous lisez cette décision, quand vous connaissiez exactement la réalité. Et que cette réalité était cousue de fil blanc d'un peu partout pour essayer de peindre, de donner une autre image à certains personnages. Vous devrez en tout cas être satisfait. Ça doit être une joie pour moi parce que dans le virtuel, tout le monde pensait que j'étais impliqué dans une affaire. Et au bout du rouleau, il n'y a aucune affaire. Il n'y a qu'un montage que le juge a dégonflé en prouvant que c'est un non-lieu.
Le juge d'instruction dans la décision rendue a révélé que le ministre de l'Eau de l'époque et son collègue des Finances avaient pris deux arrêtés qui réaffectaient les crédits non utilisés à l'achat de consommables informatiques et autres. Aaron Sous-Valentin est un juriste de formation et relève ici quelques points qui, selon lui, sont des non-dits dans cette affaire.
Pour mémoire, lors de l'éclatement du scandale, le gouvernement des Landais a protesté auprès du gouvernement béninois qui a reconnu son tort et a fini par rembourser à la partie néerlandaise le montant du crédit réorienté. Si nous restons dans la logique du non-lieu, il y a eu prévarication de ressources sans responsable coupable.
Les Béninois sont en tout cas étonnés de la décision puisqu'à l'époque, toutes les preuves semblaient être réunies pour établir la culpabilité des mises en cause. Pour certains, c'est un problème d'éducation, le fait que l'impunité semble s'ériger en règle au Bénin.
En fait, ne nous indignons pas, allons à la base.
D'abord, c'est l'éducation à la maison. Je vous assure, la punition permet de régler tout, même si c'est culturel. C'est la punition qui manque et qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu la règle. Vous avez les gros scandales financiers, mais on punit comme une personne.
Les nouveaux maîtres du pays ont un devoir d'assainissement. Ils ont le devoir de faire en sorte que les gens qu'on place suscitent l'envie d'appartenir à ce pays.
Pourtant, le ministre incriminé à l'époque et qui a même été contraint à la démission parle d'un montage bien ficelé pour le voir à genoux.
Dénoté carrément d'une cabale inutile, d'une haine nourrie envers quelqu'un qui a tout donné. À gauche, c'est moi. À droite, c'est encore moi. Seul le manipulateur en connaît les raisons.
Depuis la publication de la décision, les syndicalistes et autres acteurs de la société civile ne se bousculent pas encore au pupitre de l'indignation. Le silence est lourd, si ce n'est sur les réseaux sociaux que les internautes béninois y vont de leurs commentaires pour apprécier la décision qui attend peut-être que le gouvernement fasse appel. De Cotonou, Ginette Fleur dans les Pouvées ou Afrique.
Au Cameroun, le marché des pesticides n'est pas à l'abri des produits dangereux pour la santé des agriculteurs et des consommateurs. L'alerte a été récemment lancée par le Comité inter-État des pesticides en Afrique centrale au cours d'une session d'homologation des produits phytosanitaires. Le péril sanitaire est tel que, hormis la commercialisation des produits non homologués, leur utilisation dans les champs est aussi sujet à caution, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
Des produits homologués qui sont des produits chimiques nous rapportent beaucoup de maladies.
Au Cameroun, rares sont les agriculteurs qui tiennent un tel langage au sujet de l'utilisation des pesticides. Jojo Yori est un cas particulier. Nous l'avons rencontré dans un magasin de semences agricoles bio au lieu-dit marché d'Oufundi à Yaoundé. Un repère incontournable pour les agriculteurs en quête de pesticides. Mais très souvent, ignorant sur leur homologation. Karine est tenancière d'un magasin de pesticides à Yaoundé. Sous anonymat, nous révèle que beaucoup sont concernés par cette ignorance.
On décide qu'un produit n'est plus commercialisé. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Les arrêtés viennent généralement du ministère, soit de l'agriculture, soit du commerce.
L'ignorance sur les pesticides homologués au Cameroun est encore plus accentuée lorsqu'on se rend dans la localité de Hawaï, à 40 km de route de Yaoundé, dans l'un des plus grands bassins de production d'ananas du pays. Ici, posséder un champ d'ananas est comme un jeu d'enfant. Et l'utilisation des pesticides l'est aussi. Illustration avec Roger, 17 ans, propriétaire d'un champ de 5000 pieds d'ananas.
La dernière fois que j'ai mis le produit pour que les fruits sortent, c'est le 16 décembre.
Tu connais le nom du produit que tu avais mis?
Oui.
Tu sais comment on doit faire le dosage?
Oui.
Qui t'a appris?
Je ne sais pas comment ça fonctionne puisque moi, je ne suis pas qualifié.
Sur les 1325 pesticides commerciaux spécialisée en zone CEMAC à laquelle appartient le Cameroun, 80 contiennent des produits interdits selon le comité inter-État des pesticides en Afrique centrale. Le doigt accusateur est pointé sur les professionnels du secteur. Amos Njehoya est ingénieur d'agriculture et travaille dans une société camerounaise de distribution des produits phytosanitaires.
Tout produit entré au Cameroun passe par l'homologation. Mais cependant, il y a des individus malveureux qui, lorsqu'ils trouvent que le produit passe sur le marché, ils se mettent soit à le fabriquer d'eux-mêmes, parfois ils dosent mal, le contenu n'est pas le même. Quant à ce qui concerne les agriculteurs, ça peut leur créer des problèmes énormes de santé.
La procédure d'homologation des pesticides au Cameroun aboutit au bout de 2 ans, mais il arrive, comme depuis janvier 2017, qu'un produit déjà homologué soit plus tard interdit d'importation et de commercialisation. C'est le cas des pesticides faits à base de matalaxyle. 85% d'agriculteurs camerounais l'utilisent pour lutter contre la pourriture brune des cacao. Le gouvernement ayant donné aux importateurs de couler les stocks en réserve jusqu'en mai 2018. Un contraste sur lequel aucun responsable du ministère de l'Agriculture n'a voulu s'expliquer. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA, Afrique.
Au Sénégal, le car rapide est un moyen de transport en commun que l'on ne peut pas rater dans les rues de Dakar et d'autres principales villes comme Saint-Louis. Bariolé et gribouillé de bout en bout, il s'impose sur la carte postale du pays depuis plusieurs décennies. Selon notre correspondant sur place, le car rapide n'est pourtant ni beau ni un joyau, mais il demeure un des moyens de transport les plus prisés dans la capitale sénégalaise, dont ce véhicule à la limite extravagant est pourtant devenu un symbole au point de faire partie de l'exposition permanente du Musée de l'Homme de Paris, nous rappelle Seydina Abagay.
Venu d'Europe, le car rapide est à l'origine une voiture de transport de marchandises. Au Sénégal, il a été modifié en véhicule de transport en commun depuis plusieurs décennies. Prisé par les usagers, il est aujourd'hui incontournable. Sossé Ndiaye, secrétaire général du garage des car rapides, vante ce phénomène.
Les cars sont arrivés au Sénégal entre 1975 et 1976, donc ils sont en service depuis 30 à 40 ans. Ce sont des voitures qui, au-delà des concessionnaires, aident des personnes qui y trouvent tout leur compte. À part les chauffeurs et les apprentis, il y a les rabatteurs éparpillés à travers les artères de Dakar. Le coût du transport aussi est très bas, ce qui le rend accessible à tous. Beaucoup de personnes gravitent autour de ce business. Il y a les laveurs, les tauliers, les mécaniciens, les vendeurs, entre autres.
Ce bus, dont notre âge tient donc un rôle social dans un pays qui manque de ressources. Les usagers y sont à l'aise, comme l'indique Thurosel, technicienne de surface dans les bureaux du centre-ville de Dakar.
Le coût du transport n'est pas cher et les apprentis sont assez compréhensifs. Ensuite, dans le car rapide, on est assis tout au long du trajet, contrairement aux bus modernes qui n'offrent pas ce confort. Le seul inconvénient du car est sa lenteur, car il traîne énormément et s'arrête à chaque coin de rue. La preuve, après une journée de travail, tu peux quitter le centre-ville à 10 heures et arriver en banlieue vers 18 heures. Mais bon, comme on est assis, ça ne fait pas de mal.
Ce symbole du transport interurbain emploie un chauffeur et son apprenti. Ce dernier fait office de receveur et utilise le marchepied du véhicule comme cabine. Idriss Angom, chauffeur depuis près de 30 ans, témoigne.
Sincèrement, le car arrange tout le monde, mais il y a certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les chauffeurs manquent de couverture sociale. Certes, on a de bons revenus et on vit convenablement avec nos familles, mais après 27 ans de carrière, on devrait au moins être propriétaire d'un véhicule. Et pourtant, il n'en est rien, alors que le souhait de tout travailleur est de gravir des échelons.
Le jeune apprenti Moussa Ndiaye évoque les difficultés qu'il rencontre principalement avec les clients.
Moi, je n'ai pas les mêmes soucis que les vieux car je me débrouille bien avec mes revenus. Je respecte tout le monde dans ce business. Cependant, les rabatteurs et les clients nous posent parfois du tort avec leurs attitudes. Des fois, nous rencontrons des personnes qui font tout pour perturber notre travail. Il y en a qui refusent de payer et d'autres essaient de nous intimider. Mais malgré tout, On essaie de faire avec et quand cela ne marche pas, on se sent obligé de nous battre.
Souvent décrié pour sa vétusté et son manque de sécurité, des fois même appelé cercueil ambulant, le carapit est pourtant un des moyens de transport les plus utilisés de Dakar. Malgré l'arrivée de bus modernes, le carapit résiste au temps et aux mutations. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.